Comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Bonjour à toutes et à tous, amateurs de Power Rangers, de pantalons troués et de Fatality, bienvenue dans cette émission de Comme un lundi, spéciale années 90. Aujourd'hui, dans votre émission musicale hebdomadaire, nous allons vous présenter 8 artistes qui ont marqué cette merveilleuse décennie. Et j'ai bien dit 8, car je serai accompagné, évidemment, de Tristan.
Salut à tous.
De Titouan.
Bonsoir.
D'Antoine.
Salut.
Et d'une guest spécialement invitée ce soir pour son expertise, Mélanie.
Bonsoir.
Alors, tout de suite, on va commencer en embraille. Non, même pas.
Non, mais tu t'aurais pu, au lieu des Power Rangers, t'aurais pu nous présenter comme les Tortues Ninja, parce que années 90,
les Pokémon aussi.
4. Ah non, parce que les Tortues Ninja sont 4.
Merci Titouan pour Donc, toujours plus de qualité dans ces interventions.
Bah, il faut, parce que il va y avoir plein de références pop culture des années 90 ce soir, j'espère. Je compte sur vous.
Hein. Ah bah oui, on est là pour ça. Du coup, on commence tout de suite avec Antoine. Donc, peux-tu nous présenter tes deux artistes?
Alors moi je vais vous parler de, je vais vous les présenter l'un après l'autre et puis je vous laisse découvrir, ce sera peut-être un peu la surprise pour certains. Et le premier dont vous voulez vous parler, je pense que c'est pas vraiment nécessaire de le présenter, il s'appelle Moby. Donc c'est un multi-instrumentiste né aux États-Unis. Je la fais rapidement, il commence sa carrière en produisant principalement de la musique électronique. Ses premiers albums, c'est à la limite de la trance, et puis après il se met à faire pas mal d'autres courants. En fait, il passe par le punk, par le blues, la techno, et c'est, enfin voilà. Donc, je pense que tout le monde se souvient de ses nombreux tubes comme Natural Blues ou Why Does My Heart Feel So Bad. Il est aussi acteur dans des séries, dans des films, et il produit, j'ai oublié de marquer l'année, mais il me semble que c'est 97, la bande originale de Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan, et du coup, dans le rôle de James Bond. Et la chanson que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est le thème qu'il a préparé pour le film de James Bond. Une adaptation qui est bien à lui, du thème mythique de l'agent secret le plus sexy du monde.
Oui. Oui, en parlant de ça, il y avait hier soir un reportage sur les James Bond, un peu comment ça s'est créé, comment tout le phénomène avant, à base du livre de Ian Fleming, avec après toute la réalisation et tous les problèmes qu'ils ont eu, qui étaient plutôt intéressant. Si jamais vous voulez regarder, il est en replay sur France 2, je crois.
Voilà. C'est précis. Oh là là,
c'était les documenter cette émission, c'est fou ça.
Ouais. Et pour plus de précision, le 2 mai prochain, il sort ses mémoires.
Ah bon ?
Ah. Donc voilà.
Trop drôle. Il est si vieux que ça.
Il sort ses mémoires. Il est né le 11 juin. Donc voilà. Faites en ce que vous voulez de cette information.
Je pense que vivant quoi.
Bah ouais, c'est ça. Et ça s'appellera Porcelaine.
D'accord. Wow. Mais wow. En plus du thème de James Bond, il y a un artiste dont on a parlé il y a maintenant 3 semaines qui a participé aussi à un générique. Je ne sais pas si je vous parle de Casino Royale. Eh bien, le générique a été fait par Chris Cornwell, le chanteur.
Je pensais que tu allais nous parler de ce bon vieux dubstepper.
Ah oui, je vous invite à écouter vraiment Knife Party avec Tom Morello pour la meilleure dubstep de tous les temps. Voilà.
Ok, du coup, on va s'écouter le thème de James Bond vu par Moby. C'est parti.
Bond. James Bond. We'll be right back.
feel torn.
Et voilà, c'était Moby pour sa revisite du générique de James Bond. Et voilà, du coup, je vais passer à la deuxième personne que je voulais vous présenter, qui est pour moi emblématique des années 90. Donc c'est un artiste qui fait partie de cette espèce de mouvance 90-2000 aussi, qui empiète un peu après, qui expérimente la dance en chantant par-dessus. Là, dans son cas, c'est plutôt en parlant par-dessus, en racontant des petites histoires. Il y en a où il chante, il y en a où il danse. Et donc, si je dis Philippe Don, je pense que ça parle pas à grand monde. Mais c'est donc de Boris que je vais parler. qui est à la base un animateur radio et qui se crée un personnage Boris dont il compte les aventures lors des émissions qu'il fait. Et donc attention, si vous commencez à créer des personnages, vous pourriez vous finir comme lui.
C'est assez terrible, il faut le...
Je pense que c'est pas une bonne idée. Donc en 95, il sort un album qui va se hisser à la 43e place quand même des meilleures ventes d'albums. Oh.
Et ça quoi.
Ouais, c'était une autre époque quand même.
C'est une autre époque. Et donc le titre Soirée Disco qui devient un tube joué par beaucoup de DJ dans les boîtes de nuit parisiennes et même de toute la France et il me semble aussi un peu de l'étranger. Il utilise un électro inspiré des mouvements de Rave Party qui viennent de faire leur entrée en France, et du coup lui fait rentrer cette espèce d'influence des Rave Party dans le top 50 avec des titres comme Miss Camping, du coup Soirée Disco comme on dit, ou même, je sais pas si vous la connaissez, Ta Mère Elle Va Jumper, elle est moins présente sur internet, mais il y a un super live de lui sur MTV mais sur M6 Télé, je crois, qu'il faisait un tour et il y a un moment il balance un truc, Ta Mère Elle Va Jumper, bref, ça fait un carton dans des tournées qu'il organise où il fait tout ça. Donc ce soir, je vous propose d'écouter un autre titre qui figure sur l'album Boris, qui s'intitule Cosmonaute et qui, selon moi, résume super bien l'esprit, tant musical que parolier de cet artiste que je pense que tout le monde devrait adorer. Voilà.
Boris, quand il sera plus grand, il sera cosmonaute. Boris, il sera cosmonaute pour aller très loin dans l'espace, encore plus loin qu'avec sa tête. Encore que là, faut déjà y aller, faudra mettre beaucoup d'essence dans la fusée à Boris. Boris, comme ça, il pourra regarder la Terre. Boris, il regardera la Terre avec des yeux d'enfant. Il survolera d'abord sa maison, son village. Il frôlera les oiseaux avec ses yeux et regardera battre son cœur comme un enfant. Boris, il ira très haut, il partira. Et il regardera la Terre de plus en plus loin. Et il verra cette boule où il vit. De temps en temps, bien sûr, parce que Boris, il vit pas que sur la Terre, non. Boris, il vit pas que sur cette boule. Boris, il vit plein dans sa tête. Là-bas, il rencontrera des sirènes. Des sirènes avec des jolis sourires. Les sirènes, elles seront gentilles avec Boris, parce qu'on est toujours gentils avec Boris. Boris partira loin. Boris courra dans les campagnes de l'espace et il plantera des roseaux sur toutes les comètes qu'il rencontrera. Vas-y Boris, vas-y, pense-y très fort. Un jour Boris, tu seras cosmonaute. The rhythm. Thank you.
C'est la fin où je coupe maintenant parce que l'intro est super longue, l'outro pardon est super longue. Mais du coup pour ceux qui connaissent pas trop et qui connaissent juste Soirée Disco, je vous conseille vraiment d'écouter cet album parce que c'est vraiment des barres de rire comme on dit.
Des très grandes barres. Voilà.
Du coup petite question Antoine, ouais. Toi qui connais un peu quand même tout ce qui est électro et tout, est-ce que pour l'époque au niveau de la technique c'était vraiment novateur ou c'était quand même un peu le mec
non,
un peu copié
pas, c'est vraiment très copié de tout ce qui se fait dans la musique de Rave Party quoi,
c'est très bass bumpers quoi.
Ouais voilà, c'est très ce que j'imagine parce que j'y étais pas, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on pouvait écouter sans la musique et tout le côté kitsch un peu tu vois, ouais. Mais très
je pense que quand on écoute ça on a tous l'image en tête
mais il y a quand même un côté
à quoi ça pouvait ressembler
ouais, il y a quand même un côté assez sérieux au final assez sévère quoi dans l'instru quoi.
D'accord, bah merci Antoine pour la présentation de ces deux superbes morceaux.
Mais de rien.
Donc on passe tout de suite à la présentation de ceux de Titouan.
Absolument, et comme vous le savez, si vous suivez assidûment l'émission, je suis un très très grand fan de rock garage. Mais bon, malheureusement pour moi, les années 90 n'étaient plus vraiment les années du garage rock. Mais bon, on a eu de la chance, il y a un groupe qui a fait l'exception à la règle. Et ce groupe, c'est The Intelligence, qui est peut-être l'un des plus vieux groupes actuels en activité du garage, parce que leur début date de la fin des années 90. Alors aujourd'hui, ils sont tous à peu près âgés de la quarantaine, voire de la cinquantaine, pour le guitariste. Mais c'est toujours un bonheur de les voir sur scène, comme en témoigne leur set Opinic Folk Blues Festival, excellent festival d'ailleurs, que je vous conseille si vous êtes breton. C'est gratuit et c'est super. Donc c'était Opinic de 2016. Ou encore, on peut le témoigner dans leur album Live in San Francisco, sorti cette année même. Mais bon, le groupe est également un des plus vieux groupes en activité du très célèbre label de musique garage In The Red Recording, label mythique où ont pu figurer Jerry Tard, bon, c'est un très cher regretté qui est Jerry Tard, Black Lips ou un tas d'autres groupes incroyables qui donnent à ce label un CV impressionnant, et l'un des CV les plus impressionnants de la musique actuelle d'ailleurs. Sans trop tarder, on va tout de suite écouter un extrait de leur premier album qui est paru en 96, et c'est White Gloves de The Intelligence, pardon, sur Syllab. C'était donc White Gloves de The Intelligence, et pour toutes les personnes qui s'intéressent un peu à l'aspect technique de la musique, vous avez bien pu entendre qu'il n'y a absolument aucun mixage dans ce morceau. C'est bien dégueulasse comme on l'a dit. Alors messieurs, j'ai une petite question. Qu'est-ce que, si je vous dis un peu les années 90, qu'est-ce que vous retenez de vos cours d'histoire ?
Oh là, la Coupe du Monde, pas du tout l'histoire.
Moi je retiens la Coupe du Monde, pour moi c'est
La fin de l'URSS.
À la fin de la guerre froide, guerre de Yougoslavie.
Après, quelle plutôt fin années 90 ou début années 90 ou
vos cours d'histoire, ce que vous voyez.
Il y a plein de trucs. Les années 90, on était riches en histoire.
Antoine, lui, n'a pas été à l'école.
Je peux pas vous aider.
Et ben, si vous posez cette question à tous les Américains de notre génération, est-ce que vous savez quelle chose ils vont vous répondre ?
Bah non.
Moi j'ai un doute, mais c'est parce que je connais ce qui va se passer.
Parce que tu sais ce qui va se passer après. Et ben, ils vont vous dire, il s'est passé le fait divers le plus marquant de l'histoire des États-Unis. Et ce n'est autre que le suicide de Kurt Cobain. Et donc vous avez donc deviné que le prochain groupe dont je vais parler est un véritable monument des années 90, mais pas seulement. Il a également un bon... Il est également un monument de la musique rock et... de la vie en général. Je trouve ça assez fou comme anecdote. Enfin, j'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit que c'était pas possible. C'est peut-être pas possible, mais ça m'étonne pas connaissant les Américains. Enfin bref, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent un minimum à Nirvana, vous savez que les circonstances de son décès sont assez floues, notamment cachées par sa compagne Courtney Love. Peut-être qu'elle a quelque chose à à cacher, mais elle est passée au détecteur de mensonges.
Ah ouais.
Et elle a répondu à aucune question. Mmh. Donc voilà, c'est assez bizarre. Peut-être que vos âmes d'investigateurs pourront éclairer.
Est-il mort dans son vomi ou dans son.
en fait, de la légende dit qu'il s'est suicidé avec une arme à feu qui a été retrouvée. Mais dans les faits, c'est l'autopsie, c'est pas possible qu'il se soit suicidé comme elle le déclare et comme il a été retrouvé. Donc bon. Que voulez-vous ? Et donc, à moins que vous viviez dans les catacombes, vous avez forcément entendu un morceau de Nirvana. Selon Rolling Stone, c'est le plus grand groupe des années 90. Et selon moi, c'est le plus grand groupe de grunge, simplement parce que c'est le seul groupe de grunge qui a existé.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes de grunge qui sont identifiés comme tel ?
Comment s'appelle le groupe Soundgarden ?
Ah ouais, c'est vrai.
Qui était très ami avec Nirvana, mais...
Dis surtout pas que Nirvana, c'est le plus grand groupe des années 90 devant une groupie de Noir Désir.
Je pense qu'on va pouvoir débattre après.
C'est pas la même audience, quoi. Enfin, Nirvana, c'est planétaire. Noir Désir, ils ont jamais réussi à percer rien qu'en Angleterre, donc ça va être compliqué.
On en parlera tout à l'heure.
C'est vrai, on en parlera tout à l'heure, mais pour la petite anecdote, en Asie, Nirvana, c'est considéré comme quelque chose de vraiment nul. Donc voilà.
D'accord.
En tout cas, pour conclure tout cela, on va immédiatement écouter un des morceaux en drop D. Donc le drop D, c'est une petite minagouille sur une guitare les plus connues du monde. Il vient de l'album In Utero et c'est tout simplement le chef-d'œuvre Earth Shape Box de Nirvana, tout de suite sur Syllab.
Hey!
C'était Nirvana qui fait saigner la pédale de fuzz jusqu'à la fin. Et donc, bah, pour toutes celles et ceux qui souhaitent un peu avoir des news sur le groupe, donc Dave Grohl est toujours le leader des Foo Fighters. Il n'est plus le batteur de Queens of Stone Age. Enfin, il l'a pas été très longtemps. Et le bassiste, dont je ne me rappelle plus le nom, fait quelques petits projets musicaux, je crois, mais il vit surtout de l'argent de Nirvana, quoi. Oui.
L'un ou l'autre. Du coup, je voulais parler de pour revenir tout à l'heure au suicide, etc. Et je crois qu'il y a un documentaire. Je sais plus si c'est un documentaire ou un film sur Nirvana, sur Kurt Cobain plutôt. Alors, je crois que c'est sur Netflix d'ailleurs. Et il est super intéressant, je l'ai pas vu, je dis qu'il est intéressant, mais il a l'air super intéressant en tout cas, et je le conseille. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais...
C'est pas Last Days ?
Peut-être.
Un truc comme ça sur le dernier jour de Kurt Cobain ?
Ouais, c'est ça, je crois.
Un truc hyper long.
Ouais, c'est parce qu'il a eu des derniers jours... Il était en concert en Allemagne, il a eu une bronchite ou une sinusite, un truc comme ça, qui a été assez grave, il a été hospitalisé. Et donc, il a été rapatrié en urgence aux États-Unis. Et pendant sa convalescence, c'est là qu'il est décédé, en fait, dans sa maison.
D'accord.
Et donc, je trouve que c'était assez tendu.
C'est assez triste, quand même. Enfin, le film est quand même assez triste, assez long.
Tu l'as vu, du coup ?
Ouais, il est vachement bien, ouais. Okay. C'est celui que je pense.
La couverture, elle est en jaune, à moitié, c'est écrit en jaune, là.
Enfin, après, je sais pas, ça fait, ça fait hyper longtemps. Mais j'ai pas Netflix, mais je l'avais regardé chez moi, quand il avait dû passer à la télé ou un truc comme
Ok, alors en fait, non, je vois lequel film tu parles. Et en fait, c'est fait par Gus Van Sant, donc, qui est le réalisateur d'Elephant, qui est un excellent film. Et donc en fait, j'ai jamais vu, mais apparemment, c'est vrai que ça a l'air d'être
cool,
un super film.
Je sais pas s'il est réaliste, mais il avait une sacrée vie, quoi.
Et d'ailleurs, je crois que sur le. Alors, si c'est pas sur celui-là, c'est le film de Netflix, alors il y a Courtney Love qui témoigne dedans, et sa fille aussi, mais c'est ridicule parce que sa fille, quand il s'est suicidé, elle avait peut-être 3 heures, quoi. Elle est née quelques jours avant.
Ce que tu parles, c'était plutôt un documentaire, ce que je disais. Mais après, c'est pas. Enfin, je crois qu'il est sur Netflix. Donc, toi, c'est pas du tout Netflix qui l'a fait. Hein. C'est un film qui.
Ah ouais, si, c'est ça. C'est Netflix.
C'est Netflix ?
C'est Montage of Heck. Et en jaune, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Okay. Et donc, par contre, c'est un documentaire, c'est pas un film.
Ouais, c'est ça, un documentaire.
Donc voilà.
C'est trash, apparemment.
Bien. C'est à voir, alors on vous en parle la semaine prochaine. Mais d'abord, laissons place à notre très cher Louis.
Bien, merci. Donc moi, je vais vous présenter deux groupes, aussi marqués, on va dire, la France et le monde, mais peut-être pas autant que Nirvana. Le premier, donc, je vais vous parler, donc, dans les années 90, donc s'il y a bien un style qui fait son essor en France, c'est le rap français. Et le duo dont je vais vous parler est vraiment celui qui a participé à cette ascension. Donc il s'agit du groupe au doux nom d'Arsenic. Alors les deux frères originaires de Villiers-le-Bel, Lino et Calbo, ne sont peut-être pas les deux rappeurs aujourd'hui les plus médiatiques du Golden Age, mais ils font bien partie des piliers de cette génération 90. Donc si je vous dis Passy, Stomy Bugsy, Neg Marron ou encore Doc Gineco, peut-être que là ça vous parle plus. Ben, en fait, il faut savoir que ces différents artistes ont fait partie durant les années 90 d'un même collectif appelé le Secteur A, dont faisait partie Arsenic. Et c'est donc dans ce collectif que le duo a fait ses armes et a commencé à émerger.
Secteur A qui était en concert aux Libertés en juin dernier.
Ah ouais, aux Libertés.
Il y a eu une grosse tournée, tu sais, l'âge d'or du rap français, ça devait être incroyable. Et Secteur A est passé en concert aux Libertés en juin, juillet. Là,
Ils ont fait une tournée exceptionnelle là, de quelques mois à partir d'avril, je crois. Donc là, ils ont terminé. Et donc Arsenic en faisait partie, il me semble.
Exact.
Et donc... Arsenic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un style vraiment assez sombre, c'est vraiment au niveau de la qualité des textes, ils font partie des quelques exceptions de leur époque et leurs textes se caractérisent par leur sophisticité. Ouais, voilà, merci. Voilà, c'était sophistiqué en tout cas.
J'ai pas été à l'école.
Voilà, pour reprendre le titre d'un de leurs morceaux, ils boxent avec les mots, l'art de la rime et de la métaphore est donc, maîtrisé au service d'un rap revendicatif.
J'ai l'effectif exact de Secteur A.
Ah, ils sont très nombreux.
Ça t'intéresse ? Parce qu'on en a peut-être pour toute la nuit.
Ah non, je sais pas.
Dans les grandes lignes, il y a Stomy Bugsy, Arsenic, Passy, Oxmo Puccino, Pete Bacardi, Doc Gineco aussi, Lino... énormément de d'artistes. Il y a même un mec qui s'appelle, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était un truc ridicule. Faut que je retrouve parce que c'était vraiment. Il y a la rumeur aussi. Putain, c'est incroyable. Il y a vraiment.
Mais oui, c'était vraiment. En fait, c'était un peu le rap parisien de l'époque.
C'est ça, Neg Marron, tout ça, quoi.
Voilà. Donc leur premier album publié donc par le groupe en tant que tel, Arsenic, est sorti qu'en 98. Donc c'est assez tardif. Il est donc intitulé Quelques gouttes suffisent. Mais le succès est au rendez-vous puisqu'il est certifié disque d'or. Et le second album sortira en 2002. Mais rapidement, les deux frères vont effectuer des carrières solo. Et on va dire qu'ils vont rapidement partir du groupe et le secteur A va lui-même disparaître en 2005.
Donc le mec dont je me foutais du nom s'appelle Tony Truant. Il a sorti un seul album de 3 titres qui s'appelle Tueur du 7-5.
D'accord, bah. Ouf. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu de deuxième album, tu vois. Donc.
Il y a eu Akhenaton aussi qui a.
Ah ouais, après, tout le monde est un peu. Genre par exemple Oxmo Puccino, il y en a qui disent qu'il est pas dans le secteur A,
en fait c'est un peu un collectif quoi, il y a des mecs qui s'ajoutent.
Oui, c'est ça, oui, c'est clairement.
Il y a un noyau dur qui est composé d'arsenic et tout ça, mais ouais.
C'est ça. Donc le groupe donc à partir de 2002 n'existe plus vraiment à part on va dire manière participation de collaboration, mais donc en 2018 lors de la tournée du secteur A, ils sont revenus sur le devant de la scène et dans une interview auprès de Mouloud Achour dans son émission Click, Arsenic a confié qu'un album est en production et devait sortir en 2018.
Ouais, et je vois ça là, ils sont quand même assez actifs, mine de rien.
Oui.
Et ils ont quand même pas mal de feats avec d'autres rappeurs. Donc...
Ah, puis même au niveau solo, Lino a sorti un album en 2015, je crois, et il avait sorti même un avant. C'est plus leur collaboration.
Ouais, voilà, ils travaillent beaucoup avec d'autres. Voilà.
Et donc le titre que nous allons écouter ce soir dans Comme un lundi, comme on n'est pas non plus là pour se déprimer, parce que les paroles, on va dire, de... d'Arsenic sont assez virulentes. J'ai choisi un de leurs morceaux aux sonorités les plus funk, je trouve, donc de leur premier album. Et je vous laisse reconnaître l'artiste qui est en feat. Donc on s'écoute tout de suite Une affaire de famille d'Arsenic.
Au micro, on pose notre discours sur beat disco. Miss Pointe, j'ai ton disquaire, Wisco. Fond, on veut tous percer le plafond. J'fous de la forme dans mon front, match de mes scarlafons. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis aux gosses fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Époque silicone, j'sais plus à quel j'aime vouer. Sur qui compter quand j'coule ma clique, ma seule bouée.
Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer. Gommer, grosse arnagos, paumé, venu pour trôner. Le bis du siècle, casse de la décennie. Le cas saisi, les sémis. L'affaire qui roule pour l'état, le sémi. La roue a tourné, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre. Trinque et vis, détour la journée. La nuit en fond, crache des crânes. Des bossières, des boulons sur Paname, des roulons, tout ce que nous voulons.
Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash. T'en donnes pendant 2 heures gratuites. Bâche. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues l'hostile mais y'a pas de zoulette viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent dur. Au-delà des mots, on fera toute la sale besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans tes rap,
écarte-toi et joue et ferme ta gueule.
Y'a pas de gangster dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phase en hull, 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 ouais. Car c'est tout ce qu'on a. Viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carnat. Tous on veut qu'Emma, la musique, le cinéma. Tous on a trimé pour sortir de ce putain de coma. Ta fête, plus la défaite, c'est la victoire d'avance. Mais au final, à 3 on pète ton équipe de France. Un coffee shop, une casse, mon cop madame. Je cotise pour ma retraite à Amsterdam. On monte tellement haut qu'on pourra plus redescendre. On monte et t'essaies de nous descendre. Je sais qui sont les traîtres, on sait qui nous respecte. Je sais ce que me réserve l'avenir, les armes sont prêtes.
C'est une affaire à faire en loose des loups. Des les louves, défoncer rien que du lourd. Des vrais loups derrière une louve, prêt à tout nettoyer jusqu'au bout. Il faut que ça brille chez nous, on chez la rien. On préfère laver notre linge en famille.
extérieur. Je crache ma vision vue de l'intérieur. Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Patron sans poster, stylo terre et personne ronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon père de conche. Et si on mise, c'est pour expliquer les erreurs commises. Mon rap quitte les lascars comme Moïse sur la terre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés. Mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vif à la Cassius Clay. La vif, kiff, mon riff, fait du Scott Volta. Pose ton col, touche ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens car la famille y'a que ça qui compte. T'en fais mon affaire et à la surface ma clique remonte.
Que toutes les lascars se bougent, que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le mic quand arsenic est dans la pièce. Encaisse et danse, laisse tes roule avec mon secteur. Allume tes feux, craque l'allumette, fais feu. Sur le beurre à faire demi pas, te mouille pas là-dedans et vite ça brille pas. La peine de te faire remarquer, chic de la mec te grille pas. Te mêle pas de salette, nous foutre le souk. On va changer le pleura, le disque, même en foutre au souk. Arsenic, donc gynéco, ça part en vrille, brille les guides. Tout le monde s'en bat, c'est une affaire de famille.
C'était donc Affaire
tu
de famille.
Fais la même.
Je vais dire comme le nom l'indique, de la Darsenic et avec donc en feat Doc Gynéco. Le second morceau dont je vais vous parler est lui d'un groupe issu d'un groupe américain donc beaucoup plus connu qui a marqué le monde entier. Je parle évidemment des Red Hot Chili Peppers. Alors il faut savoir que le groupe est assez ancien à la base, donc dans les années 80, et qu'il n'y avait donc à l'origine donc que le bassiste actuel, donc Michael Balzari dit Flea, et Anthony Kiedis, dit ce chanteur. Et sont ensuite rejoints Chad Smith et John Frusciante, donc vraiment les quatre piliers de Red Hot.
Ah, John Frusciante est arrivé si tôt que ça ?
Il est arrivé, alors...
S'ils ont eu des milliers de guitaristes,
ouais,
mais...
Oui.
Il est parti après, au bout d'un
voilà.
moment.
Voilà.
Ouais, il est parti. Ouais.
En fait,
ouais.
Il est arrivé pour... Il a vraiment fait avec eux dans les années 90, donc Blood, Sugar, Sex, Magic. Après, ils ont fait aussi pas mal de mini EP un peu, ils ont pas mal travaillé, mais vraiment le premier album qu'ils ont fait ensemble tous les quatre, c'est Blood Sugar Sex Magic. Et donc
c'est Californication, c'est John Frusciante aussi.
Ouais, ouais. Bah, en fait les gros succès c'est John Frusciante, y a pas trop à se poser de questions là-dessus, hein, vraiment. Donc le groupe dans les années 90 marque vraiment sa patte. Donc il y a donc Californication, il y a eu aussi donc différentes départs. Et en fait, avec la question de la drogue, elle a été assez problématique dans ce groupe. John Frusciante est parti pour faire une carrière personnelle et surtout pour aller en désintox. Le chanteur, pareil, avait eu quelques. Donc, Anthony Kiedis avait eu aussi quelques problèmes. Ce qui a valu, donc, en fait, le retour au final en 98 de John Frusciante dans le groupe. Pour cette fois-ci faire l'album Californication, qui a vendu donc plus de 16 millions d'exemplaires.
Et donc il est arrivé à la suite du décès de...
Il est slovaque, c'est pas ça?
C'est
oui,
possible,
en
ouais,
fait,
ouais,
il y a
non,
un, il y a eu un premier, voilà, un premier ouais. Guitariste qui est
parce
décédé.
Parce qu'en fait, ouais, il y a One Not Minute, l'album voilà. Avec Scar Tissue et tout ça, entre autres, c'est Dave Navarro.
Oui, et alors lui, c'était après.
Il n'est pas mort.
Non, mais lui, il est parti parce qu'il commençait à plus se sentir.
Oui. Et voilà, c'est Slovak qui est décédé.
Voilà.
Ouais, des
Slovak,
crois,
c'était dans les années 80 et le groupe n'avait pas encore, on va dire, toute sa notoriété.
Et donc, d'accord, ok. Et en fait, ils ont eu énormément de guitaristes.
Donc voilà, donc les derniers albums, donc avec John Frusciante, donc Californication, puis après By the Way et Stadium Arcadium. Donc voilà, petite question. L'album, considéré comme le meilleur album est Californication. Quel est votre avis? Est-ce que vous préférez peut-être By the Way ou encore Blood, Sugar, Sex Magic.
Stadium Arcadium. Ouais.
Stadium Arcadium.
Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi.
Californication.
Ouais.
Dis-toi.
Moi, je suis très I'm with you. Vraiment, mais vraiment, c'est même pas une blague.
D'accord.
Vraiment.
Ah, je l'ai détesté.
Que... Ah non, non, c'est génial. Et en plus, je trouve que Josh Glofling Fleur, je vais dire ce nom, c'est vraiment un génie. Et je trouve qu'en fait, là où tous les autres guitaristes des Red Hot ont essayé trop de s'approprier la touche Frusciante dans les compos sur scène, oui, et tout, bah lui, c'est vraiment de garder une patte différente tout en restant qui il est. Et puis c'est vraiment... Alors le dernier album vaut ce qu'il vaut, mais je trouve que c'est vraiment... I'm With You est super bien produit déjà. Et
tu aimes les choses bien produites, Tito.
Ouais, complètement, mais je trouve que c'est vraiment super bien bossé, quoi. Enfin, c'est... En dehors de l'aspect musical, il y a quelque chose. En plus, je trouve qu'il y a une atmosphère qui fait très Red Hot, en fait.
D'accord. Et toi, Antoine ?
Moi, je pense que c'est plutôt Blood Sugar Sex Magik.
Ouais, ouais, sinon, j'aurais dit...
Blood Sugar Sex Magik est vraiment celui qui a beaucoup imprégné.
C'est bien parce que... J'ai beaucoup séché Stadium Arcadium, mais je trouve qu'il est trop...
long.
Bah, en fait, quand t'écoutes les autres albums, je le trouve trop aseptisé, en fait, par rapport... Enfin, trop, il fait trop album de la maturité, quoi. C'est moche de dire ça, mais je trouve qu'il fait vraiment album de la maturité et ça me gêne. Et du coup,
moi, je trouve que Stadium Arcadium, il y a quand même moins de.
Mais même si il y a des
de tubes quand même. Tubes,
mais moi, je trouve que Stadium Arcadium, c'est vraiment le truc de ricain par excellence.
Ouais, mais je trouve que c'est le début de la décadence en plus par rapport à l'album qui est arrivé après, qui pour
ah
moi
oui,
est
sûr,
enfin nul. Enfin, après, c'est mon avis.
Je
hein,
suis même plus du nom.
Nul.
Puis en plus,
du coup, je sais pas, c'est une évolution que j'aime pas trop. Et à partir de celui-là, que j'aime bien encore, parce qu'il y a des purs sons dessus, il y a des solos de malade. Et voilà.
Et en plus, je trouve qu'il est. Ce qui est vachement. Ce qui m'embête avec Stadium Arcadium, c'est que c'est vraiment très ricain, mais par excellence. Et puis, genre, c'est pas pour autant que la prestation live signature de cet album. C'est dans une grande scène, une grande salle américaine, show à l'américaine, alors que les Red Hot, c'est plutôt des trucs très underground, des gros stades qui font des trucs à la Red Hot.
Live at Slane Castle, là, c'est pour moi le
meilleur ouais, voilà. Live. Et là, ça fait pas du tout Red Hot, ça fait plus concert de Bruce Springsteen.
Disons que le problème aussi, je pense aussi pour ça que John Frusciante, alors là, c'est interprétation totalement personnelle, mais il y avait déjà à la fin, comment dire, il partait plus pour venir à un groupe, on va dire un peu un groupe musée à la U2, où les gens venaient plus voir... pour qu'ils refassent les morceaux qu'ils ont déjà fait des tubes, les gens
comme
chantent leur groupe
comme ça. Bah oui, c'est ça.
Et qui étaient moins, on va dire, dans la création originale et moins. Ils pouvaient moins évoluer, quoi.
Pour moi, quand Frusciante est dans les Red Hot, c'est lui le leader du groupe.
Oui, oh bah clairement, au niveau de la musique.
Et ce qu'on voit dans I'm With You, c'est Flea a composé des morceaux entiers, ce qui n'était jamais arrivé dans les Red Hot, quoi. C'était toujours. Des compos qu'on leur passait, ou c'était Frusciante, ou c'était les guitaristes. Et là, genre, c'est incroyable parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Après, voilà, en plus, pour moi, Anthony Kiedis, c'est un chanteur de studio et pas un chanteur live. En live, il fait vraiment des
pas. C'est pas top. Hein.
Ouais, voilà, bah, carrément, voilà. C'est un chanteur de studio et dans I'm With You, il bosse, il est vachement. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un super album. Vraiment, okay. C'est pas du tout une blague.
D'accord, bah, moi je t'avouerais que donc, Josh, on va l'appeler Josh.
Hein. On va l'appeler Josh.
Je suis quand même moins fan au niveau des compositions que Frusciante. Il a quand même un style, même sur scène. Je pense à Otherside, où il chante en contre-chant, qui est vraiment là où il est fou, Frusciante. C'est qu'en plus d'être ultra technique, ultra créatif, il chante hyper bien, il arrive à faire tout en même temps. Mais ce qui m'a fait marrer quand même, c'est pour le live au Super Bowl. Les Red Hot ont joué et on leur a demandé pour des questions techniques de jouer en fait de pré-enregistrer un morceau et de faire un playback. Et donc sur ce fameux live au Super Bowl, pour se foutre de la gueule un peu du système de playback, Josh qui commence à jouer n'importe comment avec sa guitare et qui montre totalement que c'est du playback, donc c'est un peu le mythe.
C'est bien par contre parce que je trouve qu'il y a des avis totalement différents sur chaque album et chaque personne a son album favori.
Ouais.
Du coup c'est cool.
Ouais.
Et pour la petite, je viens d'apprendre quelque chose que je ne savais pas du tout. Josh, comme on l'appelle si communément, est le bassiste de Jane's Addiction, donc ça c'est ouf. Et il a été le bassiste pendant 8 ans de Stevie Wonder.
D'accord.
Voilà.
Tout s'explique. Donc voilà, en souvenir du bon vieux temps et du caractère donc, international des Red Hot Chili Peppers, on va s'écouter tout de suite sur Radio Syllab, Around the World.
Hollywood!
C'était Around the World de Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers de leur album Californication.
Et du coup, tu disais qu'ils avaient fait la mi-temps du Super Bowl il y a quelques temps et aujourd'hui reprend la NBA.
Ah bon ?
Ouais, et en 2010, pour la finale de la NBA, ils ont joué l'hymne américain. Voilà.
Ça devait être sympa.
Ça devait être sympa.
Après, souvent les reprises ça comme ça en NBA, NHL, etc., c'est pas.
Ils ont des restrictions.
Ouais. Justement, enfin je sais pas, en tout cas moi j'avais vu un truc justement sur le quotidien comme quoi on avait, il y avait une reprise de l'hymne américain par je sais plus qui c'était, Britney Spears ou un truc comme ça, et c'était juste catastrophique quoi. Après je sais pas, les
après c'était
trouve,
Britney Spears
après ouais, ça reste quand même vraiment, quand on parlait de groupe musée, après,
ça a rien à voir,
c'est vraiment à même limite là presque commercial quoi, c'est une marque presque en fait maintenant les Red Hot.
Bah oui, rien que le comment dire,
le logo
ouais.
Les gens ils prennent ça, je suis sûr qu'ils savent, un peu comme les Rolling Stones, ils savent même pas ce que c'est quoi. Ouais. Peut-être pas non plus les Rolling Stones, mais enfin voilà. Vous avez compris.
Du coup, voilà, c'était la fin de ma chronique. Et maintenant, donc, on termine avec celle de Tristan.
Voilà, et j'ai juste un truc à dire, comme quoi, j'avais vu un talk show américain, alors je ne sais plus exactement lequel c'était, justement, où le batteur des Red Hot jouait juste à côté de son sosie.
Oui.
Du coup, je ne me rappelle plus. Du coup,
le batteur, c'est Chad Smith, mais le sosie, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils ont lancé une marque de batterie.
Ah ouais.
En fait, c'est tout. Alors, selon les légendes, c'est que tout le monde disait, genre, vous êtes des jumeaux, et ils ne se connaissaient pas. Et un jour, ils se sont rencontrés, puis comme ils se ressemblent quand même pas mal.
Ouais. Il a une chaîne d'école aux États-Unis de batterie.
Oui. Non, mais il a Chad Smith. Il a vraiment. C'est un gros professionnel et un gros, gros réseau aux États-Unis.
Et ce qui est ouf, c'est qu'en plus, il a joué la batterie à côté du mec. Et le mec savait super bien jouer de la batterie aussi.
Ouais, ouais.
C'était vraiment bien. Voilà. Du coup, pour moi, on va partir loin des Red Hot Chili Peppers. On va partir sur du MC Solar. Je pense que vous connaissez tous MC Solar ici.
Oui.
Il n'est plus présentable. Donc je vais vous faire une petite biographie quand même. Donc MC Solar, ou de son vrai nom un peu moins stylé, Claude Honoré M. Barali, ou Claude MC. Donc,
Claude MC.
Claude MC.
Il est aussi appelé Claude MC, c'est un petit surnom. Donc voilà, c'est un rappeur français, tout le monde le connaît. Il est l'un des premiers artistes ayant popularisé le rap français dès le début des années 90, comme tout le monde le sait. Sa musique et la qualité littéraire de ses textes sont le fruit d'inspirations diverses, allant de Serge Gainsbourg aux musiques africaines. Donc ça se sent dans ces textes qui influencent beaucoup les musiques ivoiriennes, maliennes et sénégalaises dont il vient. Il est le rappeur ayant vendu le plus de disques en France, plus de 5 millions. Okay. Il y a notamment je pense que vous connaissez ici très bien il a sorti son dernier album là, avec Sonotone. Moi je sais pas ce que vous en pensez.
Géopoétique.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais
je dirais l'album de trop.
Ouais, je pense aussi.
très attendu, mais au final.
Moi, je pense que je trouve sonotone. Genre, j'ai du mal avec. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Pourtant, c'est MC Solar et je n'aime pas critiquer MC Solar, mais.
Je pense qu'il n'était pas très bien entouré dans la production. On dirait vraiment un gars qui essaye de faire un peu du jeune avec ce qu'il a, alors qu'il n'a pas besoin. Il aurait fait du MC Solar tout court. Je ne sais pas s'il faudrait regarder s'il a changé de producteur ou pas, ou changé d'instru, mais. Je trouve qu'il y a vraiment une moins bonne qualité au niveau
plus,
de l'instrument.
Ça sent que c'est plus commercial à moitié et tout, qu'il a pris,
c'est
je sais pas. Ouais, c'est pas terrible.
Enfin bref.
Pas
fan.
En tout cas, pendant les années 90, c'était beaucoup mieux que cela. Et donc à la fin des années 91, Solar sort son premier album qui sème le vent, récolte le tempo, qui certifie par la suite disque de platine, atteignant les 400 000 exemplaires.
Et donc, juste, je fais une petite aparté à ce qu'on disait. Tu parlais de qui sème le vent, récolte le tempo. Le producteur d'MC Solar est le même depuis ses débuts.
D'accord.
Même pour Géopoétique de 2017.
D'accord.
Et donc, bon, après, voilà. Au début, on voit qu'il a des très belles collaborations et il finit à faire des collaborations avec Big Flo et Oli.
Oh. Quelle violence pour Big Flo. Bref.
Donc, voilà, avec le succès de son premier album, il entame une longue tournée en Pologne et en Russie. Me demandez pas pourquoi. En décembre 92, il continue sa tournée dans des pays d'Afrique. Donc, il a. Beaucoup de succès. Donc même si ça retourne en studio donc en 94 pour enregistrer Pros Combat, l'album se vend à plus de 100 000 exemplaires dès les 10 premiers jours de sa sortie en France et devient aussi un des meilleures ventes dans 20 autres pays. Et je vais revenir aussi sur un titre, je vais vous faire écouter un petit extrait maintenant qui moi m'a bouleverse donc chaque jour. Et écoutez bien, pour ceux qui connaissent pas MC Solar, l'instru derrière est absolument magnifique, le texte est juste magnifique également. Donc je vais passer un petit extrait tout de suite. Voilà, donc c'est Solar Pleur de MC Solar. Alors moi, je trouve que c'est un de ses plus beaux titres, personnellement. Vas-y, Louis.
Ouais, et il a influencé, cette chanson a influencé beaucoup d'artistes, parce que même il y a Nekfeu qui en fait référence dans ses titres, notamment. Je ne sais plus lequel c'est, mais à un moment, il fait donc comme Je pleure, comme Solar, un truc comme ça.
Ouais, incroyable, enfin, juste rien que les paroles, etc. Et puis on sent que dans sa façon de chanter, etc., c'est un artiste qui est vachement engagé, etc. Donc. Et donc, ensuite, je passe un peu donc les années 90, on va sortir un petit peu. L'album 5e As en février 2001, distribué par Warner, Claude MC ou encore MC Solar en est lui-même le directeur artistique, ce qui est une première. Il décide à cette occasion de travailler avec des compositeurs un peu plus connus, Fabrice Curseur, DJ Mac, DJ Sample, etc. etc.
Blackjack aussi.
Ouais, possible.
Si je meurs ce soir, excellent titre.
C'est possible.
Fais ta petite promo pour tes potes.
Moi, j'aimerais bien être pote avec eux. Hein, mais, hélas,
et non. En tout cas, on passe donc maintenant bon, le dernier album qui vient de sortir. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et d'ailleurs, là, du coup, je vais vous passer un de ces titres donc, que moi je connaissais pas avant, que j'ai connu grâce à Romeo Elvis et Angèle sur Skyrock.
Étonnant.
qui avait fait une reprise qui était vraiment. Magnifique et je la trouve l'original aussi est très belle. Vas-y.
Et donc je pense qu'on peut le dire, la première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock.
C'est vrai, on en parle de ça. Ouais.
Et en plus, 13 années 90.
Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc victime de la mob de MC Solar sur Syllab.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seul devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font 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 les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne, quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique tic attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Jimmy J.
Du coup, voilà, c'était Victime de la mode de MC Solar sur Syllab. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur Syllab, parce que d'ailleurs, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit en backstage.
En off. Bah non, mais c'est tout ce qui est en off, reste off.
Ok, ok, ouais. Tu m'as dit.
Non, on pourra toujours dire, c'est que ce qu'on disait, c'est que
non, bah,
MC, Solar, MC Solar, Romeo Elvis et Angèle se connaissent bien, parce que ce sont des amis. Même si cela est un ami de la famille, on dit.
Voilà. Et vu que notre guest qui va intervenir dans très peu de temps a dit que l'album d'Angèle n'était pas super, je me suis dit, elle va se faire virer de l'émission par, par son mentor Tristan. Voilà. C'est des choses à ne pas dire devant Tristan, parce que sinon.
Bah, elle a une jolie voix. Non, mais
ça, c'est le début d'une critique.
Mais t'as dit ça quand? Je veux juste avoir une tour d'avis.
Je dis ça tout à l'heure. Ben, off.
Parce qu'il est 22h03.
Elle dit des banalités avec une jolie voix, quoi.
On en parlera après parce que là on n'a pas le temps. Du coup là je vais juste parler de Noir Désir. Attention parce que là on va parler de Noir Désir. Du coup je peux.
Il compensera.
Ouais, du coup donc voilà, on parle de Noir Désir. Mélanie est une grande fan, une groupie même de Noir Désir, on peut dire. Elle avait vu beaucoup de concerts là notamment.
J'ai jamais vu Noir Désir en concert. Je suis un peu jeune encore.
Noir Désir, pardon. Voilà, je suis perdu à
Bertrand Cantat et voilà, Détroit.
En concert. Voilà, Détroit avec moi d'ailleurs.
Avec toi, ouais.
Juste avant l'Arctic Monkeys.
Ouais. C'était beau, quelle belle journée.
Et breton aussi. Du ouais. coup, comment dire, je vais te poser quelques questions. D'ailleurs, comment dire, comment as-tu trouvé les derniers, parce que tu as vécu en fait les derniers concerts de Bertrand Cantat dans sa carrière. Du coup, quel est ton sentiment par rapport à tout ça, à toute cette histoire? Même on va parler un peu. Des histoires extérieures un peu à la musique, mais
ouais, musique surtout, hein.
Oui, musique surtout, mais je veux d'abord connaître ton point de vue par rapport à tout ça.
Bah là, en dernier, j'étais carrément dépassée parce que il y avait beaucoup de choses fausses qui sortaient, donc enfin tu demandais si les journalistes ils se renseignaient au bout d'un moment, quoi. Et enfin ça parlait que de ça, en mode il y a que lui qui fait de la merde, vraiment, quoi.
En tout cas, apparemment, c'était vachement multiplié.
Ouais, mais en fait, les gens disaient beaucoup que pendant les concerts, c'était des émeutes et tout. Mais bon, j'ai fait 4 concerts sur la tournée, j'ai pas vu une seule manifestante, quoi. Donc, je trouve qu'on faisait beaucoup de bruit pour pas grand-chose parce qu'il y avait pas beaucoup d'engouement contre, finalement, quoi.
D'accord. Et entre les concerts de comment dire, de Détroit et de Bertrand Cantat. Est-ce que tu as trouvé une différence
Au niveau de la setlist, oui, mais sinon, c'était les mêmes musiciens pour la plupart. À part, c'est le batteur qui a changé.
C'est Détroit,
donc, franchement, finalement, Amor Fati, son dernier album, c'est. C'est juste qu'il a choisi de faire sortir un album en son nom, quoi, vraiment.
D'accord. Et du coup, on va passer plus du coup à Noir Désir maintenant.
Bah ouais, les 90. Hein.
Au niveau des albums, etc. Quel est ton préféré
Moi, c'est Des visages, des figures, donc le dernier.
Et par rapport aux autres
Par rapport aux autres, comment ça.
Bah, je veux dire, le meilleur pour toi. Et celui qui il y a bien un album, un peu le. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le.
Celui qui me dit le moins, quoi.
Voilà, exactement.
Ouais, moi, mon préféré, c'est Des visages, des figures, donc celui où il y a Le vent nous portera, par exemple. Et sinon, il y a celui que j'ai beaucoup aimé pendant longtemps et que j'aime moins maintenant, c'est 666-667 Club. Donc celui où il y a À ton étoile, même si j'adore cette chanson, ou L'homme pressé, par exemple. Enfin, franchement, au final, à force de l'écouter, je crois que. Bon.
Est-ce qu'on en parle du clip de L'homme pressé? Qui a vu le clip?
C'est une parodie de Boys Band, en fait.
D'accord.
C'est pour ça qu'il danse bizarrement. Ouais,
ah ouais, mais là, c'est
ouais,
plus
non,
que de la parodie.
Oui, c'est
parce que si on n'est pas au courant.
Ouais, si on n'est pas au courant. Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'étais. Mais c'est ça, Noir Désir, le fameux groupe et tout. J'étais,
d'accord,
ouais.
c'est une
parodie.
Okay,
ouais.
D'accord.
Ouais, ouais.
Je comprends plus
ouais,
de choses.
Le clip,
vraiment.
Il est pas ouf.
Non, il est terrible, moche.
Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les gens extérieurs à Noir Désir, un peu Noir Désir en quelques mots, je te demande pas, juste parce qu'on est un peu pressé par le temps, il est 22h06.
T'as pas préparé
déjà.
De chronique, Tristan?
Si, si, mais tu sauras mieux en parler que moi, hein. Moi je suis un peu, je suis pas non plus fan de Noir Désir, je préfère Angèle, désolé.
Bah, c'est un groupe formé à Bordeaux avec des lycéens, donc Bertrand Cantat, Serge Tessoguet, Denis Barthes. Et il y a eu deux bassistes, donc Jean-Paul Roy, qui était en dernier. Et toi, tu me demandes comme ça, là, tu me lances, je dois faire une biographie, quoi. Et donc après, ils ont sorti des albums.
Ouais, normal.
Tout, voilà, qu'est-ce que tu veux dire?
Alors, t'as pas préparé de chronique ou quoi, Mélanie?
De quoi?
T'as pas préparé de chronique ou quoi? Bon, bref. Alors.
Bref.
Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? On va passer donc Tostaki pour le dernier tube de cette émission. Et je sais pas si vous avez autre chose à rajouter là-dessus.
Je crois que tout a été dit. Donc, on termine cette émission.
Spéciale année 90.
Noir Désir, ils ont fait une super reprise du groupe Les Nus de Rennes.
Bah oui, qu'on avait passé.
Magnifique, qui est super.
C'est Johnny Colère? Non, c'est pas non,
Johnny Colère, ouais, c'est ça.
Ouais, Johnny Colère, ouais.
Et Johnny Colère que t'avais passé d'ailleurs, Antoine.
Il me semble que je l'avais
pour notre truc plaisir coupable.
Ah ouais?
Mais oui.
Mais les versions live de ça, ouais.
Je sais plus.
C'était Helmut.
Mais non, t'avais passé pour les groupes locaux.
Les groupes locaux, exactement. Il y avait Les Nus et du coup.
Mais Johnny Colère, la version live de Noir Désir, enfin, il y en a plusieurs, mais elles sont super en vrai.
Ouais, elles sont super bien.
Franchement. Et ils font des belles reprises, vraiment. Toutes les reprises.
Que pour la dernière question qui pourrait clore ce débat, tu penses que Bertrand Cantat reviendra sur le devant de la scène?
Je pense pas. Franchement, au Zénith, là, c'était un peu triste. Vraiment, il était genre, merci à vous, vous êtes mes amours, un truc comme ça et tout. Enfin, il a jamais fini un concert comme ça. Enfin, ça sentait clairement la fin, quoi.
Donc voilà. Notre réponse.
Ok, mais bon bah.
Ouais.
Ah, d'accord, vas-y, tu veux.
Non, mais c'était pour revenir aux reprises. Franchement, leurs reprises, à chaque fois, c'est vraiment réussi. Il y a j'en ai plus en tête du coup là, mais c'est tout le temps des belles reprises qui fait Bertrand Cantat.
Ok, bien alors on va terminer là donc sur cette émission spéciale années 90, donc sur la chanson
Tostaki
de Noir Désir. On vous souhaite donc une bonne soirée, donc merci Tristan, merci Titouan, merci Antoine et merci Mélanie. Et oui, on vous souhaite une bonne semaine, donc tout de suite avec
Tostaki.